Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur la 93.5, votre radio, la nouvelle génération. Bien sûr, les résultats des municipales du 17 juillet dernier sont connus. La CENI a proclamé ses résultats ce lundi sur les 1527 conseillers municipaux. Le Parti Uni s'impose avec 1150, soit un taux de 75,31%. La NCI se révèle comme la deuxième force avec 51 conseillers et l'UFC occupe la troisième place avec 38 sièges. En tout et pour tout, les 28 partis et regroupements politiques et 44 listes indépendantes se sont partagés les 337 sièges restants. Le taux de participation est à 55,02 contre 52,46 en 2019. Le sujet nous intéresse. Nous aborderons bien sûr le sujet dans cette émission Club de la Presse. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 22 juillet 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouté assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lesso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous le savez bien, vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com. Aussi, vous pouvez nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mardi et là, vous comprenez que Eric Parkoudou-Josson doit être là et il est là. Et Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Claude, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre...
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Eric. Oui, Claude Assiobo, vous l'avez bien salué. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça peut aller.
C'est l'essentiel.
Oui.
Voilà, on a le souffle de vie.
Oui, pourquoi pas, oui.
Voilà.
En attendant.
Et nous nourrissons l'espoir que demain sera meilleur.
En attendant, le mieux ou le pire.
Non, le mieux.
Non, on attend toujours le mieux, même dans la durée.
Même en temps de détresse.
Oui, bien sûr. Sinon, on va se suicider.
Il faut avoir cet espoir.
Oui.
C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes là, c'est parce que nous avons rendez-vous avec notre chronique littéraire que nous dénommons la bibliothèque animée. Et Claude, nous savons que vous êtes écrivain, chroniqueur et conseiller littéraire. Et en fait, quand on parle alors de conseiller littéraire, Claude, qu'est-ce que c'est?
En réalité, c'est très simple. Hein. Le conseil littéraire, c'est un coach littéraire qui peut vous donner quelques conseils généraux en amont lorsque vous voulez aborder un livre, parce qu'il y a des règles infaillibles.
Hein. En littérature.
En littérature. L'exemple, j'ai lu beaucoup de romans togolais, je remarque que le problème qu'ils ont souvent, c'est le rapport avec la réalité. Hein. Il y a des rapports très compliqués. Hein. Le roman doit pouvoir imiter la réalité tout en s'en détachant. Ça, c'est une technique et c'est indurable. Hein.
C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire...
Bien sûr. Il faut faire comme si... Il faut donner l'illusion de la réalité et non reproduire la réalité. Ça, c'est très important. Il y a une technique pour donner l'illusion de la réalité. Voilà. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et on n'a pas le temps. Et ça, c'est en amont, c'est des règles générales. Bon, il y a aussi le c'est un coach parce que beaucoup de livres, on n'écrit pas seul livre. Vous avez beau avoir du talent, il y a des choses que vous ratez. Et il y a la réécriture. Et constamment, on est en réécriture. Hein. On vous aide à réorienter, mieux gérer les personnages, si c'est un essai, à mieux structurer vos idées, à les graduer, à les équilibrer, hein, et à les faire progresser. C'est ça. Donc, voilà ce que c'est qu'un coach littéraire.
Non, mais est-ce que ça veut dire que quand on dit, enfin, il y a un auteur, bien sûr, qui dit qu'il n'y a pas de lecture, il n'y a que la relecture, est-ce que ça veut dire que chez l'écrivain aussi, il n'y a pas d'écriture, il n'y a que la réécriture?
Oui, c'est ça. D'abord, à son propre niveau, hein.
Oui.
Il faut réécrire. On le dit dans le sens que dans plusieurs livres, vous retrouverez le même auteur. On le sent dès qu'on prend les premières pages, celui qui les connaît, cet auteur, sent que, ah, ça, c'est ceci, celui-ci. Oh, ça se sent.
Et souvent,
c'est l'obsession qu'on déploie dans ces œuvres. Et c'est la même obsession de la première œuvre à la dernière. Et c'est pourquoi on dit ça. Hein, il y a la réécriture, il y a la relecture, c'est constant, hein, c'est constant, chez l'auteur d'abord lui-même. Et les critiques littéraires. Lorsque je prends un livre, je relis et je découvre d'autres choses. Hein, c'est un recommencement perpétuel. Voilà.
D'accord. Claude, c'est vrai que... Eric,
il faut, dans ce cas, mettre la différence entre le conseiller littéraire et l'éditeur.
Oui, bien sûr. C'est pas la même chose.
Voilà.
Le conseil littéraire est saisi directement par l'auteur.
Okay.
Et il peut être saisi aussi par l'éditeur pour accompagner l'auteur. Parce qu'on a trouvé qu'il a du talent, il y a des étincelles, mais il a des ratés. Il faut l'aider à mieux exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Voilà.
C'est obligé donc pour un écrivain d'avoir un conseiller littéraire.
Vivement recommandé.
Hein, c'est recommandé.
Vivement recommandé. Vivement, surtout les amateurs et ceux qui ne sont pas dans le domaine. Si vous avez fait l'aide moderne, vous avez beaucoup de chance. Si vous avez beaucoup lu, vous avez beaucoup de chance. Mais vous pouvez avoir du talent ou avoir une expérience personnelle que vous voulez retracer, mais n'avoir pas la technicité
voilà.
Pour donner à vos idées et toute sa densité. Voilà.
D'accord. Claude, c'est vrai que nous avons ouvert la dernière fois le livre de Madame Koutoukalo Tassim, intitulé Les Enfants de Midi, un récit bien poétique marqué par l'humour, l'oralité et un accent pathétique, un livre qui s'inscrit dans notre thématique corps de femme, femme d'esprit. Aujourd'hui, Claude, nous allons consacrer, comme le veut notre programmation habituelle, une seconde chronique à ce titre ou à ce livre, j'allais dire. Claude, comment est perçue la personne de la femme à travers le regard de l'homme dans ce livre?
Oui, au fait, ce roman aurait pu s'intituler aussi L'épouse de Midi. Hein, c'est l'épouse qui est au centre du récit. Au fait, l'auteur qui est une femme donne la parole, non à une narratrice, hein, ce n'est pas une narratrice, mais à un narrateur, une voix masculine, pour nous raconter l'histoire de sa propre famille polygame, dont sa mère est la seconde épouse. Voilà. Et ce doux regard, l'auteur se cache derrière ce doux regard, et la voix de l'auteur, femme cachée derrière la voix masculine, parce que c'est un garçon de la famille qui raconte l'histoire, n'est fabuleux que la voix et le regard de notre société. Hein? Alors, oui, dans ce regard double qu'on peut séparer, on peut d'abord remarquer le regard des personnages hommes sur la personnalité de la femme. C'est ça ta question. Et dans l'ensemble, la femme est réduite dans le livre à son sexe, vu à travers le regard de l'homme. La femme est considérée comme une boîte à procurer du plaisir. Hein? Et on va prendre les personnages qui écartent ces idées.
Oui.
Et il y a d'abord le père du narrateur même, un certain Kwaku, fonctionnaire, je crois il doit être comptable, non content d'être polygame, qui peut laisser une de ses femmes en jachère et qui revient se frotter les mains en se disant, celle-là, aujourd'hui, je vais la taper. Vous voyez c'est et selon l'expression même de Tassine, l'auteur qui est l'auteur, il y a même le pasteur violeur de la seconde épouse, hein, qui, la femme qui a été laissée en jachère et qui, las, veut récupérer son mari et aller voir le pasteur pour l'aider à prier, avoir des recettes de prière pour retrouver son mari. Eh bien, elle est tombée dans les traquenards de ce pasteur qu'il a finalement violé, vous voyez, et devant une femme, cet homme ne voit qu'un sexe. Et il y a même le prêtre amant qui ayant reproché à M. Kwaku, c'est le mari, hein, de n'avoir pas respecté le sacrement de mariage et la monogamie qui est ce sacrement. Et le prive en conséquence d'Eucharistie et déclare la première épouse légitime notre dame de l'Église, finalement s'approprie cette dame de l'Église et devient tout simplement son amant.
Finalement, notre dame de l'Église est devenue alors sa dame.
Son amant. Vous voyez ? Voilà à peu près le regard que les hommes ont malheureusement sur une femme dans la société, et c'est dommage.
Oui, mais c'est dommage, mais oui, je pose la question autrement. Et comment est perçue la personne de la femme à travers le regard de la femme elle-même dans le même livre?
Oui, et dans l'ensemble, les femmes misent. Les femmes, elles sont conscientes de leur corps. Hein. Elles savent que c'est une bombe. Comme je le dis souvent, une grenade, c'est quelque chose qui peut donner des larmes aux hommes. Et c'est leur corps. Les femmes misent sur la beauté de leur corps pour piéger les hommes. Elles s'en sont conscientes. Hein. Nous avons déjà parlé de la première chronique où on est allé chercher cette belle villageoise. Hein. On n'est pas allé chercher quelqu'un pour seconder la première. On a pris le soin qu'elle soit vraiment belle, juteuse, hein, pour venir piéger le mari dans la capitale. Hein, et comme un objet d'art, hein, un joli objet, on l'a offert au mari, il ne peut pas résister. Hein. Alors, le narrateur complice insiste aussi, complice de l'auteur. L'auteur qui est une femme, hein, et la femme, ainsi l'auteur insiste sur les habillements moulants de cette femme, de cette mère seconde épouse, pour qu'il mette en relief ses rondeurs dans ses sorties. Hein, et mettre des hauts talons en aiguille, même pour aller voir le pasteur. Vous voyez ça? Les femmes sont très conscientes de la force de leur corps.
Pour moi, il n'y a pas encore de péché.
Oui, mais lorsque tu vas voir le pasteur pour des besoins spirituels et que tu mets tes femmes en ronda, eh bien, tu veux prouver, tu veux lui offrir le diable et prendre quoi en échange? Ah bon, tu vois, c'est ça? Donc, mais... Et il y a une image, un cliché même dans le texte, hein, qui suggère comme une recette pour la femme qui veut conserver la fidélité de son mari. Hein. La femme là, la seconde épouse, on l'appelle, elle s'appelle Patty, la seconde femme. Hein. Vous voyez, et elle traite même, ça c'est une autre image, hein, elle traite la femme, sa première co-épouse, hein, pour dire qu'elle a une femme abandonnée, elle l'appelle la femme momie. Une femme momie pour n'avoir pas entretenu son homme et ses beaux-parents. Et le beau-père même des deux femmes donne à Patty sa préférée, le conseil suivant. Qui prétend, hein, le beau-père prétend tirer ce conseil de la sagesse universelle. Et il lui dit, ma fille, étudie ton homme. Et c'est lui, ses plats préférés. Quels sont ses plats préférés? Il y a d'abord les mains buccaux, donc pour la bouche, et il y a les mains sensuelles. Voilà les deux choses. Et on prétend souvent dans la sagesse que pour garder un homme au foyer, il faut les deux. Il faut le tenir par le ventre et par le bas de la culotte. Hein? C'est ça.
C'est un bon conseil.
Est-ce que c'est vérifié? Mais l'auteur qui est une femme bat en brèche, détruit ce cliché. Hein? Elle refuse cette façon de voir les choses. La preuve, elle met et l'héroïne qui est Patty, et ça, la seconde femme, elle la met dans une situation telle que cette femme fait des efforts pour sauver son mari et son foyer, qui est le père de ses enfants, du vagabondage sexuel. Malgré ses propres efforts, et malgré ces deux femmes, et malgré les efforts humanistes de ce Patty pour récupérer son homme, eh bien, cet homme n'hésite pas à détourner de la caisse de son service pour entretenir une petite fille du même service jusqu'à aller en prison. Et deuxième chose, elle ira, juste en sortant de prison, sa femme qu'il a eu le cœur de l'héberger, et il a encore enceinté la petite bonne. En gros, la femme est pour. En gros, on voit que l'auteur se moque avec beaucoup de tendresse du genre masculin, pour qui le corps de la femme est une occasion de déchéance, malheureux de déchéance. Hein? Et le genre masculin semble lui faire pitié. Hein, si vous voyez comment elle joue comme portée dans le roman, hein, d'où son ton humoristique qui va jusqu'au pathétique dans le roman.
Voilà. Eric, ouais. Ce n'est toujours pas facile de résister quand on est homme.
Non, mais ce qui est très touchant dans ce livre-là, c'est la réification de la femme. Hein. Et malheureusement, l'homme tombe le plus souvent dans ça. Et je pourrais même parler de l'instinct masculin. Et aujourd'hui, vous savez, je pense que ça tente un peu à partir. Hein. Parce que quand vous suivez un peu le cliché là, vous remarquez que le monsieur, il est tenté par toute femme, hein, tout ce qui a une certaine beauté. Lui-même, il se crée déjà l'image dans la tête.
Ça devient une obsession.
Et ça devient une obsession. Et donc, aujourd'hui, avec la culture hein, qui
s'entremêle,
on essaie de réduire cela. Et sinon, vous savez... avec nos ancêtres, hein, on dit telle a 20 femmes, mais ça diminue aujourd'hui. On peut avoir maximum 2-3, mais pas plus. Donc, et ça veut dire que ça commence par s'atténuer, mais là encore, je pense que c'est...
Mais s'atténuer, je suis peut-être d'accord avec toi, mais au même moment, il y a des copines à raconter.
Oui, oui, mais là... ce n'est plus le même effet. C'est-à-dire que ici, on prend une femme, on l'amène à la maison, alors qu'il y a l'autre déjà. Ouais. Mais ça, ce qu'on fait de la femme la première, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Hein. Il y a des tendances guerrières chez la femme maintenant. Et la femme veut s'affirmer, elle aussi.
S'imposer.
Elle veut s'imposer dans le foyer. Et donc, je dis, pour moi, oui, on commence avec un peu l'éducation, avec les conseils, hein, et puis on fait beaucoup plus le genre aujourd'hui. Hein, dans tout ce que nous faisons, il y a le genre qui vient, et donc ça fait que ça diminue un peu.
D'accord.
Mais là, ce roman-là est toujours d'actualité.
Justement, c'est un roman d'actualité. Esaïe Edo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour auditeurs et auditrices, bonjour aux confrères autour du plateau.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, on rend grâce à Dieu.
C'est vrai, nous sommes en train de parler alors de cet ouvrage. Il y a Claude qui nous a exposé justement cet aspect ou ce point alors de cet ouvrage, puisque nous sommes en train de traiter alors d'une thématique code de femme d'esprit, bien sûr. Et finalement, quand on prend tout, on comprend tout simplement que la tentation est souvent grande pour les hommes que nous sommes, mais au même moment, il faut se maîtriser.
Oui, il faut se maîtriser, je crois que c'est le mot, parce que l'homme, généralement, est attiré par ce qu'il voit. Donc, une fois que l'homme voit devant lui une femme qui a toutes les qualités en matière de beauté, l'homme n'a pas d'autre choix que de l'admirer. L'admiration, ça vient toujours. Maintenant, il ne faut pas aller au-delà de l'admiration. Je crois que c'est le grand effort.
Mais des fois, il est difficile de trouver la ligne de démarcation.
Oui, évidemment.
bien sûr. Mais je crois que c'est un effort que les hommes que nous sommes, nous devrons faire. Parce que on ne peut pas empêcher l'homme d'admirer. On ne peut pas empêcher aussi la femme d'exprimer sa beauté, qui est d'ailleurs un atout naturel de la femme. Donc l'effort, c'est à ce niveau. Et je crois que c'est la chose la plus difficile pour l'homme aujourd'hui. Et généralement, on le dit que l'homme qui est fidèle, ce n'est pas parce que il n'a pas envie d'aller voir ailleurs, mais parce que à un moment, il a pris la décision de résister à tout ce qu'il voit dehors. Parce que voilà, l'homme restera toujours l'homme, l'homme va toujours apprécier, mais ce n'est pas aussi une raison de justifier, en tout cas, l'infidélité de la part des hommes, parce que aucun homme n'aimerait voir sa femme être infidèle, mais pour l'homme, on a tendance à l'accepter, à le justifier.
Et des fois, le justifier.
Justement, à le justifier, des fois, c'est ce qui, quelque part, oui, c'est vrai, mais comme je le dis, nous avons besoin de faire ce qu'il faut pour nous surpasser, nous maîtriser.
D'accord, voilà. C'est très important. C'est ce que nous souhaitons à tous les hommes que nous sommes, n'est-ce pas, Claude?
Oui, je peux conclure en vous donnant cette citation de Victor Hugo que mon ami Guy Missouri aime dit citer souvent. L'homme s'est fait... Le Dieu s'est fait homme, c'est Jésus, et le diable s'est fait homme. Le diable s'est fait femme. Voilà.
Ah bon. D'accord. Merci beaucoup, Claude. Merci pour cette chronique. Vous pouvez bien sûr rester avec nous pour le débat. Alors, on commence le débat avec ce sujet de l'actualité. Vous savez très bien que depuis hier, les résultats des municipales sont connus. Ces résultats, tels que je le disais dans mes mots introductifs, la CENI a proclamé ces résultats hier lundi. Et sur les 1527 conseillers municipaux, le parti Unis s'impose avec 1150, soit un taux de 75,31%. La ANC se révèle comme la deuxième force avec 51 conseillers. L'UFC occupe la troisième place avec 38 sièges et d'autres partis aussi hein, pour la suite. Il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet ce matin. Eric, vous êtes revenu sur le sujet. Vous écrivez bien sûr « Élection municipale 2025 ». L'abondante moisson de Unis selon les résultats provisoires. Bien sûr, il faut signifier quand même que c'est les résultats provisoires hier et que nous attendons dans les prochains jours les résultats définitifs. Il y a le journal Le Détective qui est revenu également sur le sujet. Le journal Le Détective qui écrit « Municipal 2025, une élection boudée par la population ». Encore autre journal, c'est Le Médium, le journal Le Médium qui écrit « Municipal 2025, résultat provisoire, unis sans pitié, rafle presque tout ». Et presque, il a mis justement, le journal a mis presque entre parenthèses. Autre journal, c'est Liberté, le journal Liberté qui écrit « Coup d'état électoral permanent, comme toujours, le parti au pouvoir opère une razzia ». Au municipal. Et bien sûr, le journal avec aussi la photo à la une. Alors, Eric, c'est vrai, nous avons tous ensemble appris les résultats. D'abord, il y a les tendances qui ont commencé par être données avant, même d'ailleurs, les résultats hier. Et ces tendances ou ces résultats provisoires ont confirmé les tendances. Et comment vous appréciez d'abord ces résultats?
D'abord, je pourrais dire d'ores et déjà que ces résultats ne m'ont pas étonné, enfin dans une certaine mesure, mais en même temps, ils m'ont encore étonné. Alors, c'est le oui et le non. Hein, et donc, je m'explique. Parce que, vous savez, lorsqu'il s'était agi de faire les bulletins de vote, on avait convoqué tous les candidats, du moins les têtes de liste à la CENI pour le choix, le vote sur le positionnement sur les bulletins de vote, on a constaté déjà que sur près de 40% des communes, UNIR était en face de... Enfin, pas de grands partis politiques, pas de candidats aussi poignants. Et donc, déjà, on se disait, mais tiens, ça veut dire que UNIR a déjà 40% de gains sur les 117 communes. De l'autre côté, il y a eu la campagne, où il y avait différentes positions. Certains demandaient le report de la date du scrutin, d'autres encore carrément le boycott. Et donc, les gens n'ont commencé leur campagne qu'une semaine après le début de la campagne. À ce moment, on se demandait, mais comment... logiquement une campagne qui devait faire deux semaines, on peut se prendre pour la faire en une semaine. C'est déjà un handicap. Et donc, pour moi, je me disais que si tel est le cas, et qu'est-ce qu'on a vu? Les gens n'ont pas fait des campagnes comme ils en avaient l'habitude. Quand on pose la question, on dit non, on peut faire les porte-à-porte. En une semaine, ce que vous n'avez pas pu faire en deux semaines, je ne pense pas qu'en une semaine, vous pourrez mieux le faire. Parce que il y a toujours des indécis qui font la part belle de toute élection, qu'il faut réveiller, qu'il faut faire venir afin qu'ils puissent aller voter et surtout... pour vous, parce que c'est vous qui êtes allé les dénicher, c'est vous qui leur avez parlé, c'est vous qui avez présenté au moins quelque chose. Et donc, pour moi, je me disais que avec ça, UNIR devait avoir le double, ça veut dire déjà 80-90% des sièges. Et ma surprise, c'est que ça n'a été que 75% par rapport
à vous, ça devait être plus.
Par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain.
Voilà, le constat.
J'affirme ici que nous avons la chance d'avoir des correspondants sur toute l'étendue du territoire. Et les informations qu'on a reçus et qu'on a même essayé de mettre dans nos parutions pendant ces deux semaines de campagne, c'est ce qui en ressort, que les gens n'ont pas fait la campagne comme ça se devrait. Et le porte-à-porte, les gens quittent, ils vont au boulot, et ils reviennent, et c'est pas le soir, la nuit, que vous allez aller vers eux pour discuter affaire d'élections.
D'accord.
Et donc, moi, c'est la surprise pour moi que, malgré ces handicaps-là, pour les autres listes, qu'Unir n'a eu que
75%. 75%, ça c'est beaucoup quand même, Eric. Claude, est-ce que vous avez été surpris par ce
résultat? Non, vous savez. D'abord, je vais vous dire que moi, je n'ai pas voté. Ce jour-là, je suis allé à dormir à la plage pour écouter le bruit des vents et des vagues.
Comment ça? Vous n'avez pas vu l'importance?
Je n'ai pas porté ma radio comme d'habitude. J'ai fermé ma radio et lorsque j'ai appris qu'on a fermé le bureau de vote, je suis retourné à la maison. Ce qui est, ce que j'aime beaucoup chez ce parti, c'est qu'on peut prévoir son comportement, hein, et tout. Je dirais que c'est comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Je ne dirai pas et que je n'irai pas jusqu'à parler de fraude parce que j'ai pas été sur le terrain. J'ai lu ça seulement sur les réseaux sociaux. Je sais quand même que tous ceux qui veulent le changement ne se sont pas gênés. Ils ne se sont pas gênés. Mais je sais que, connaissant ce parti, même si la terre tremble et qu'il y a une...
Il y a eu un tsunami.
Un tsunami dans le pays, les résultats seront proclamés. Et ce serait à plus de 50%. Et donc, la seule chose que j'aime chez l'UNI, c'est que
elle est
transparente dans ses habitudes. On peut prévoir comment elle va réagir, comment les choses vont se passer. Ça ne m'étonne pas. Mais ce que moi je souhaite, c'est que si la population est capable comme ça de plébisciter l'UNI, je souhaite que le développement aille à pas de géant. Hein? Pas 20 ans pour faire un petit pas. C'est en contradiction avec ce que nous voyons sur le terrain. Merci.
D'accord. Merci Claude. Oui, Esaïe, vous, quelle appréciation vous faites alors de ces résultats provisoires qui ont été proclamés hier?
Non, en termes d'appréciation, je dirais que c'est ce qu'on attendait. Ce n'est pas une surprise pour personne. Je le dis parce que déjà, l'environnement qui a encadré tout le déroulement du processus était favorable à UNIR d'avoir ce résultat que la CENI a proclamé hier, bien que ce soit des résultats provisoires. Eric faisait tout à l'heure l'analyse par rapport à cet environnement. Moi, je voudrais ajouter en disant ceci, que tous les acteurs, que ce soit de l'opposition, du parti au pouvoir ou encore de la société civile, ont tous contribué à ce que UNIR puisse avoir ce résultat. Pourquoi je dis cela? Avant les élections, les acteurs de l'opposition ont d'abord demandé la recomposition de la CENI, ce qui n'a pas été fait, mais par après, c'est silence radio. Entre-temps, ils ont demandé aussi le report des élections. Ils n'ont pas eu gain de cause. Après, c'est silence radio. Quand la campagne a débuté, beaucoup de partis se sont dit qu'ils vont passer une semaine de deuil en mémoire de ceux qui sont tombés durant les manifestations. Et là encore, ils ont après par la suite commencé la campagne sans pour autant battre campagne comme cela se doit. Et s'agissant de la société civile, nous avons écouté des organisations appelées au boycott, notamment les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont plus écoutés aujourd'hui parce qu'ils appellent aux manifestations. Ils ont appelé au boycott. Alors que, pendant que tout cela se déroulait, Unir reste droit dans ses bottes. C'est-à-dire quoi? Pour Unir, nous irons aux élections, les élections vont se tenir, et les militants du parti Unir, pour eux, tant qu'il y a élection, tant que les organisateurs de ces élections maintiennent la date, c'est que eux, ils iront voter. Alors que au sein de l'opposition, notamment les militants, il y a un flou total. Est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce qu'il ne faut pas aller voter? Parce que les acteurs, quelque part, n'ont pas été clairs sur les consignes ou encore le mot d'ordre à suivre. Il y en a qui appelaient au boycott, il y en a qui demandaient le report. Et non seulement cela, nous avons vu pendant les élections précédentes, chaque fois quand il y a élection, l'opposition crie au vol, au bourrage d'urne et tout. Mais depuis là, l'opposition n'a jamais réussi à sécuriser son résultat ou encore sa victoire. Pour quelqu'un qui vote chaque fois et qui sait que s'il donne sa voix à l'opposition, l'opposition n'est pas en mesure de sécuriser sa voix pour que cette voix puisse compter effectivement. Alors, on se demande à quoi ça sert. Et quand vous écoutez beaucoup de personnes qui ne sont pas allées voter, c'est ça la chanson. Nous connaissons déjà le résultat. Ma voix, je vais aller voter, mais c'est toujours Unir qui va gagner. Et justement parce que si, bon, moi je n'ai pas des éléments.
Mais est-ce que cette manière de voir aussi la chose, est-ce que ça n'avantage pas plutôt le pouvoir, le parti au pouvoir, j'allais dire?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Que tous les acteurs,
comme Claude, par exemple, qui disent si je viens voter, qu'est-ce que ça va donner?
Oui, donc tout, voilà. Moi ça donne la chance au parti.
Ah, ouais, non, non, c'est, justement. C'est eux qui poussent le parti au pouvoir à gagner.
Je vais finir par là. Tous les acteurs ont contribué à ce que Unir ait ce résultat aujourd'hui. Mmh. Et je rappelle que tant qu'il y a plus qu'il y a de boycott, plus il y a de chances pour le parti au pouvoir de remporter un grand nombre de voix. Et d'accord. C'est ce qui s'est passé.
D'accord, merci. Alors, oui, mais je voudrais ajouter ceci. Mmh. C'est Claude qui m'a donné cette idée-là. Mmh. Il faut se dire la vérité. Claude, pendant qu'il y a une période d'accalmie politique où il n'y a pas d'élection en vue, mais tous les autres partis, tous ceux qui ont été candidats là, ils font rien sur le terrain. Unir est toujours sur le terrain. C'est ça le vrai défi. Et de l'autre côté, quand les gens disent nous allons boycotter le scrutin, ils n'ont pas dit à leurs électeurs que si jamais, ou ceux qui ont dit, par exemple, qu'il faut qu'on repousse
le scrutin, ils demandaient le report.
Plutôt. Le report, est-ce qu'ils ont dit, mais s'il n'y a pas report, nous irons quand même à ces élections.
Mais à la dernière minute, la décision a été prise.
La décision a été prise, mais en amont, il fallait dire aux électeurs que, quelle que soit la situation, qu'on reporte ou pas, nous irons quand même à ces élections. Et vous savez, en réalité, il y a eu une démobilisation des électeurs, en commençant par ceux qui se disent que même si on votait, Unir va gagner. Mais on parle des élections municipales. Nous l'avions dit ici, la semaine dernière, que ces élections constituent la base de notre démocratie. Aujourd'hui, quelqu'un comme Claude qui n'est pas allé voter, il a déclaré ouvertement, mais il est dans un quartier, il est dans une commune. Comment pourra-t-il apporter sa contribution à sa commune? Et comment pourra-t-il réclamer quelque chose s'il n'a pas porté sa voix sur quelqu'un qui est peut-être le maire ou qui est conseiller du maire? Parce que c'est là où tout commence. Parce que si vous n'apportez rien, vous ne pourrez rien réclamer en réalité. Et moi, c'est ce que je pense. Et je crois que tout ça là contribue quand même à la victoire de unir.
D'accord. À chaque fois que nous allons à des élections. C'est vrai que vous n'êtes pas seul, hein. Oui. Vous n'êtes pas seul à ne pas y aller. Oui. C'est-à-dire, pour ce qui concerne le vote, il y a pratiquement 43%, hein, 43,22%, c'est-à-dire, sur les 4,637,998, il y a 2,004,609 qui n'ont pas voté. Et au-delà de cela, ce qui me tique encore, c'est par rapport surtout au bulletin nul. Au bulletin nul, on a pratiquement 66,924. Soit 1,44% bien sûr, alors de bulletin nul. Mais comment cela s'explique?
Non, moi ce que je veux dire, d'où viennent tous ces chiffres-là? Et la population n'écoute plus la classe politique, ni même la voix des institutions. Hein? La CENI et la Cour suprême, ce n'est plus la Cour constitutionnelle. Mmh. Oui, mais c'est
Pour ces élections,
c'est la Cour suprême.
Ouais. Oui. Ne sont pas plus fiables pour une majorité de la population. Ils ne sont plus fiables. Et puis, la classe politique même est devenue inaudible. Hein, c'est ça la réalité.
On ne l'écoute plus.
L'autre là vient de parler de démobilisation. Je partage cet avis, sauf que les causes qu'il a ciblées ne sont pas les miennes. Hein, il y a eu démobilisation justement à cause de ce que je dis. Parce que on sait que l'UNI va gagner par tous les moyens. Et je pèse mes mots. Par tous les moyens. Et si on sait que l'UNI va gagner par tous les moyens, je pèse mes mots. Je dis, même si la terre tremble, l'UNI va gagner. Alors, pourquoi moi je vais perdre mon temps à m'agiter?
Mais justement, est-ce que
je préfère dormir, faire ma sieste, écouter la musique. Est-ce que vous suivez? Malheureusement, on a Radio France Internationale ne fonctionne plus. Moi, je vais contourner avec mon VPN. J'écoute, hein, c'est bien.
D'accord. Il n'y a pas de problème. Esaïe, moi, c'est vrai, quand on prend ces bulletins d'huile et aussi ces abstentions, finalement, c'est quelque chose quand même qui doit interpeller.
Oui, ça doit interpeller et je pense que ça va dans le sens du développement que je faisais un peu plus tôt. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont allées voter parce que peut-être ils sont dans un environnement où, je sais pas, qui sont peut-être dans un service ou bon, qui les oblige ou qui sont contraints de voter quand même. Et donc,
Mais ça ne devait pas être comme cela.
Oui, pour beaucoup de personnes, c'est un devoir civique. Et c'est ça, c'est vraiment un devoir civique. Bon, j'accomplis mon devoir civique, mais je n'ai pas la certitude que la personne pour qui je vais voter porte vraiment le désir, mon désir en tant que citoyen. Nous avons dit tout à l'heure que les acteurs politiques, notamment de l'opposition, n'ont pas réussi à convaincre la population, en tout cas en ce qui concerne cette élection. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de voter pour unir, mais qui se voit dans l'obligation d'accomplir son devoir civique, va quand même voter et faire bulletin nul. Maintenant, en ce qui concerne le taux de participation, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur le chiffre que la CENI a avancé. Parce que nous avons tous vu lors des élections la faible affluence dans les bureaux de vote, pas seulement à Lomé. Mais nous avons fait le tour. Moi, personnellement, j'ai fait le tour.
Je l'ai fait aussi.
Justement, moi, je suis allé dans un bureau de vote, là où j'ai voté d'ailleurs. Les gars, ils dormaient dans le bureau. C'est quand je suis rentré que les gens sont réveillés. Et c'est pareil un peu partout. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur les chiffres avancés par la CENI. Et bon, moi, je ne vais pas m'aligner sur cela comme quoi la CENI a menti ou pas, parce que le fait qu'on a parcouru des bureaux de vote et qu'on a vu cela ne nous garantit pas quand même d'attester que le taux que la CENI a avancé.
Mais aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'autres chiffres officiels pour contrecarrer alors ce que la CENI a donné.
Justement, c'est là où je voudrais en venir au comportement ou encore aux stratégies mises en place par les partis de l'opposition. Et les partis de l'opposition, vous allez voir, on le dit souvent que le vote des citoyens qui portent dans leur cœur l'opposition n'est pas toujours sécurisé. N'est pas sécurisé dans la mesure où l'opposition n'a toujours pas des éléments pertinents pour attester ou pour contredire les chiffres avancés par l'institution qui organise les élections. Et autre aspect, c'est que pour ces élections particulièrement, vous allez voir que la plupart des listes de l'opposition ne sont pas, l'opposition n'est pas allée à l'intérieur, au fond du pays. Quand vous prenez les localités ou encore les communes comme Kpendial et autres, que ce soit Kpendial 1 ou 2, 2 ou 3, vous allez voir dans ces localités que c'est UNIR seul qui est en liste. Mais demandez-vous, le fait que UNIR seul soit en liste fait que...
Ça dit pas de concurrent.
Pas de concurrent, mais quand vous allez dans ces bureaux de vote, il n'y a même pas de représentants des autres partis. Ils se disent, voilà, nous n'avons pas notre liste là, nous n'allons pas là-bas. Quelque part, ils donnent déjà, comme je le disais précédemment, ils donnent déjà...
C'est un boulevard pour le parti.
Un boulevard pour le parti. Quand vous prenez l'ANC qui est classé deuxième, l'ANC, si ma mémoire est bonne, n'a présenté que 41 listes, si ma mémoire est bonne. L'UFC qui suit, je crois, ça doit être 38 listes. Pendant ce temps, UNIR a présenté 117 listes. L'UNIR est présent dans toutes les communes. Ce qui voudra dire que quoi? Que le boulevard était déjà dressé à UNIR. Que ce soit, si UNIR devrait manipuler les chiffres, c'est un boulevard qui est là pour UNIR. Donc aujourd'hui, on n'a aucun élément pour contester. Même quand vous prenez les observateurs qui sont arrivés, que ce soit des observateurs internationaux ou nationaux, ils ne sont pas allés au fond du pays. Les gens sont restés à Lomé. S'ils ont fait plus d'efforts, peut-être ils sont allés quelque part là-bas dans la préfecture de Ziyot-Thiviers, un peu vers le Vaud, et puis ça s'arrête. Donc, quand nous prenons tous ces éléments, aujourd'hui, les résultats que la CENI nous présente, on n'a pas d'autre choix que les accepter.
D'accord. Oui, mais je vais réagir par rapport à tout ça. Mmh. Je suis d'accord avec Claude quand il dit que la classe politique est inaudible. Mais il faut faire attention, parce que c'est cette classe politique-là qui a demandé aux gens de ne pas aller voter. On avait demandé aux gens de ne pas aller voter au cours d'autres élections. On a vu les résultats. Mais je me demande, est-ce qu'il faut rester dans cette logique-là quand vous savez que vos voix aussi peuvent agir sur les résultats? Même si on dit qu'il y a fraude, que les résultats ne sont pas conformes au vote et tout ça, mais je pense que lorsqu'on sera nombreux à aller voter contre le parti UNIR, je pense que ça agira quelque part. Au lieu qu'on nous dise que UNIR a 90% dans un bureau de vote, ça peut revenir à 70-60%.
Mais et quelle est l'incidence sur la réalité?
L'incidence sur la réalité, c'est que les résultats tels que proclamés ne seront pas les mêmes.
Et ça nous donne rien.
Mais attention, je pense que aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour continuer pas à éduquer les populations.
Éclairer surtout cette population.
Éclairer. Oui, c'est notre rôle en tout cas. Mais en disant les choses de façon tranchée de cette manière-là, c'est que, excusez-moi, mais on ne fait pas notre travail. Je pense que, tel que disait Esaïe tout à l'heure, par rapport aux représentants des partis d'opposition dans les bureaux de vote, il n'y a pas que l'opposition dans les bureaux de vote. Il y a aussi des candidats indépendants, les candidats de la société civile. Quand on a commencé par parler de ces élections ici, j'attirais l'attention des gens sur ce que, logiquement, ces élections devraient faire courir la société civile. Au lieu de laisser encore la place à la classe politique, ce sont les indépendants là, enfin de la société civile, qui devaient s'approprier ces élections, être candidats partout. Parce qu'il s'agit de la gestion de la chose locale. À la base, tu fais partie de cette gestion-là. Parce que je disais aussi que logiquement, jusqu'à fin 2024, logiquement, il devrait y avoir des bureaux du citoyen dans chaque mairie. S'il n'y en a pas, il faut qu'on le fasse vite et il faudrait que les gens en demandent. Parce que c'est ça qui est en réalité la courroie de transmission entre les maires, et le bureau communal et les citoyens. Parce que ce qui ne va pas chez moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est à moi d'aller dire. Le maire, peut-être il est dans sa tour d'ivoire, il ne voit pas grand-chose. Et c'est à moi, citoyen, d'aller lui dire, attention, dans cette ruelle-là, tout ce que nous souhaiterions avoir, c'est une voie un peu, enfin, même si c'est une piste rurale, ça peut nous permettre de sortir et de faire nos va-et-vient. C'est important pour la commune. Donc, je crois que pour ces élections-là, c'est que ce n'est pas forcément une histoire de parti au pouvoir et d'opposition. Il fallait le prendre de façon générale. D'accord.
Oui, Claude, moi, c'est vrai, je suis toujours sur ce point où on voit pratiquement pour le corps électoral qui est estimé à plus de 4 millions, près de la moitié n'est pas parti alors pour voter. Et quand certains ont décidé d'y aller, c'est-à-dire pratiquement plus de 66 000 ont voté, ont donné quand même un vote nul, c'est-à-dire avec des bulletins nuls. Mais normalement, ça doit s'expliquer et ça doit donner un message.
Oui, avant de vous répondre, je reviens un peu à Eric. Eric, ouais. C'est un débat intéressant. Nous sommes dans la contradiction et c'est bien. Et ne mélangeons pas les élections avec le développement. Mm-hmm. Ce n'est pas parce qu'un maire serait uni que moi, demain, je n'ai pas voté, je n'irai pas lui dire cette ruelle, ce serait bien pour l'intérêt général, faites ceci.
C'est ton droit aussi. C'est mon droit. De ne pas aller voter.
Mais il ne va pas me demander où est ta carte.
Non.
Il ne va pas me demander ça.
Ou même pas, pourquoi tu n'as pas pu voter.
Voilà. Et je sais même dans mon âme conscience que, voilà, que même s'il est maire uni, s'il a les moyens, s'il a les coups de franche, il va vouloir le faire. Ne serait-ce que pour l'intérêt de son parti, pour la visibilité de ses actions. Ça, je peux le faire. Hein? Et je peux vous dire même que un point sur lequel moi je suis très déçu, c'est moins les problèmes de démocratie que de développement. Je suis très déçu. Hein? Et les pays africains qui se développent, Kagame n'est pas un modèle de démocrate. Hein? Même l'autre là qui est en Côte d'Ivoire,
Ouattara, le président Ouattara,
et comment l'appelle, même Talon ici, il a mis la démocratie en veilleuse, mais ils agissent et il faut produire des résultats. Le Togo apparaît aujourd'hui comme un pays où on peut voler impunément, hein, on ne fait pas confiance aux institutions. C'est ça le grand problème, le réel problème, c'est ça. Moi, ça ne me gênerait pas, hein. Si on casse les œufs, on fait des omelettes. On casse les œufs, ça fait des omelettes. C'est ça qui gêne. Et précisons bien les choses.
D'accord. Ma question maintenant.
Et maintenant, ça là, ce n'est pas la préoccupation de ce pouvoir, hein, que les gens ne votent ou ne votent ou ne votent pas. Ce n'est pas le problème. Ce que moi je lis, peut-être je peux me tromper. Ce qui les intéresse, c'est garder le pouvoir par tous les moyens. Merci.
Oui, Eric, je reviens à toi, on va quitter le sujet, on s'intéresse à un autre sujet.
Quand on est parti politique, quand on est parti politique, d'abord, c'est d'arriver au pouvoir et de garder le pouvoir, ce n'est pas...
Pas pour tous les moyens.
Ou prendre le pouvoir et le remettre à quelqu'un.
Même si on garde le pouvoir, il faut développer le pays. Voilà, il faut le développer.
C'est ce qui importe. Là, on est en train de parler de partis politiques.
Qui ont pour rôle alors de conquérir le pouvoir.
Il faut le lire, Machiavel.
Ce n'est pas par tous les moyens.
Merci beaucoup.
C'est bien l'intérêt général.
Je crois que
l'UNIR ne devrait pas se réjouir, ne devrait pas se réjouir seulement de ce résultat, parce que un travail s'impose désormais à ce parti. Si nous prenons...
Ça devient un défi.
Ça devient un défi, que ce soit à l'Assemblée, les sénateurs, les conseillers régionaux, la présidence du conseil, c'est le parti UNIR, ajouté maintenant aux conseillers municipaux, ce qui voudra dire que tout le pays est entre les mains du parti UNIR, et donc UNIR a la responsabilité d'assurer le développement du pays. Si après 2-3 ans, on se rend compte que le pays est toujours tel qu'il est aujourd'hui, là, il y a un réel problème.
Il ne faut pas oublier qu'il y a 25% d'autres partis qui ont gagné aussi.
Mais c'est UNIR qui a la majorité. UNIR a la possibilité de prendre la tête de tout.
On va quitter le sujet. On s'intéresse, on va au nord, à l'ordre du pays, pour les rites. Et voilà, on sait que c'est depuis le samedi dernier quand même que cela a démarré, et c'est sous le regard du président du conseil, Fort Nassimbe. Et Eric, vous êtes revenu sur le sujet, bien sûr, vous écrivez « Culture, tradition, et voilà 2025, sous le regard de Fort Nassimbe, les jeunes Kabyes relèvent le défi ». Et vous allez encore plus loin et vous écrivez « Société, et voilà, et viande de chien, entre tradition, initiatique et déviance moderne ».
Ah oui. Bon, tu l'as déjà dit, les Evala ont commencé le samedi dernier à Kadjala, Kanyalada.
Je pense que c'est bien prononcé.
Oui, Kanyalada, dans le canton de Pia, le samedi dernier. Et donc, ça continue. Et si nous avons fait ce sujet-là, c'est un reportage... on a constaté, et aujourd'hui même à Lomé, un peu partout sur tout le territoire d'ailleurs, il y a des kiosques de vente de viande de chien. Et on s'est posé la question. Le chien est un un accompagnateur pour
un compagnon de l'homme.
De l'homme. Et donc, comment on arrive à le manger aussi facilement? Mais quand nous avons interrogé les chefs coutumiers dans le pays, mais il s'est révélé que c'est uniquement pendant les rites de cette tradition-là, et voilà, qu'on mange la viande de chien. Et donc, ce sont les jeunes lutteurs qui apportent leurs chiens, qui les tuent quelque part, où on appelle Hoye. C'est uniquement là-bas que le chien est tué, il est distribué, on enlève la graisse et on met sur tout le corps du jeune Evala. Et donc, après les Evala, en réalité, on ne doit plus manger de chien. Et il nous a même été dit que vendre du chien, que c'est, comment ils ont appelé ça, et que c'est un dérèglement mystique. Qu'en réalité, on est enfin en train de faire une transgression de nos traditions. Or, pourquoi on tue le chien pour que le jeune Evalou en mange? C'est pour lui donner cette vigueur-là, c'est pour lui donner cette force-là, mais au-delà, il peut en tomber malade, il peut attraper enfin des trucs mystiques jusqu'à devenir même fou. Et là, ils sont en train de nous expliquer que, en réalité, après les Evala, faut plus manger la viande du chien.
D'accord.
Que c'est proscrit.
D'accord.
Mais malheureusement, quand vous y allez aujourd'hui, vous
voyez... Ça coule les rues.
Ça coule les rues, c'est étalé partout. Les gens viennent en manger. Tel dit, moi j'ai déjà fini mes rites initiatiques, donc je peux en manger, alors que ce n'est pas vrai.
D'accord. Oui, Claude, c'est vrai que ces rites ont commencé, cette tradition a commencé depuis le samedi, et nous avons vu la ferveur autour de cela, parce que c'est tout le gouvernement qui s'est transporté à Accra avec à sa tête le chef, enfin le conseil, le président du conseil. Mais on aurait voulu quand même que pour les autres fêtes traditionnelles, qu'il y ait la même ferveur.
La réponse se trouve dans ta question. Il y a une surmédiatisation de cette fête culturelle. Depuis le président Yadema, bien sûr, ce n'a plus la même ampleur médiatique, mais je crois que la tradition est conservée. On aurait voulu d'une année à autre, à une autre, que ça se reporte pour que les officiels donnent une importance à d'autres fêtes traditionnelles que successivement pour pas mettre l'accent sur une seule fête, ça donne l'impression d'être la fête nationale, une fête nationale. Et bon, ça c'est pas encore grave, mais moi j'ai l'impression que ce qui m'intéresse souvent dans la vie, c'est la culture de l'esprit. Et on met trop l'accent sur la culture de nos milieux, ce qui est bien aussi, mais moins sur la culture de l'esprit, qui nous désenclave même de nos milieux. Lorsqu'on est trop attaché aux cultures du terroir, on n'est pas assez libéré par rapport à la culture de l'esprit. Les deux doivent aller de pair. Et ce que je remarque dans l'action de ce gouvernement, souvent, que nous avons l'âge de raison, c'est que il y a trop d'insistance sur la culture du terroir par rapport à la culture de l'esprit.
Voilà. D'accord. Esaïe, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'initiations ou d'initiatives, j'allais dire, qui sont prises parallèlement à cette fête ou à cette, oui, à cette fête traditionnelle à l'Ordevala. Et j'ai lu quelque part même d'ailleurs qu'il y a des cartes nationales d'identité même qui seront établies à 48 heures. Mais sûrement, enfin, dans d'autres fêtes traditionnelles aussi, on aurait voulu que des initiatives comme ça soient prises.
Oui, c'est ce qu'on aimerait voir. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est pas la première fois que nous le disons. Nous ne sommes pas les premières personnes à faire cette observation. Ça a été dit des années précédentes plusieurs fois par plusieurs personnes. Mais la réalité est que ça ne change toujours pas. Et moi, je me pose justement cette question. Les ministres, tous les membres du gouvernement qui font le déplacement, quel est leur rôle en faisant ce déplacement? Qu'est-ce que leur présence apporte d'abord à l'événement, à la fête Evala même? Et qu'est-ce que ça...
On aurait pensé à une vacance gouvernementale.
Ça n'a pas été décrété. En tout cas, je l'ai vu nulle part. Où c'est dit que ce sont des vacances pour le gouvernement, je l'ai vu nulle part. Maintenant, si cela est officialiser que ses vacances, alors chacun libre de faire de ce qu'il veut avec durant ses vacances. Mais ce n'est pas le cas. Donc je me pose cette question, qu'est-ce que leur présence là apporte à l'événement et ensuite qu'est-ce que cela apporte au pays? Ce sont moi mes deux inquiétudes. Parce que chaque année, ils vont là. Il n'y a pas que les ministres. Il y a des directeurs de sociétés étatiques qui font le déplacement et tout. Donc, je me pose toujours cette question. Maintenant, les activités parallèles qui sont organisées. Par exemple, la délivrance de cartes d'identité. Moi, je n'ai rien contre cela parce que les derniers chiffres que nous avons, en tout cas, je ne les ai pas en tête, montrent quand même qu'il y a peu de Togolais qui ont ce document-là. Donc, si on profite de cette occasion où on sait que beaucoup de personnes effectuent le déplacement pour leur faciliter l'accès, c'est une bonne chose. Nous voyons également, comment on l'appelle, des sociétés qui se déplacent sur les lieux pour faire leurs affaires. Là encore, c'est de bonne guerre. On ne va pas leur reprocher cela. Maintenant, comme je posais la question tout à l'heure, c'est la présence des officiels là-bas. Qu'est-ce qui fait que pour les autres fêtes, nous ne voyons pas cette réalité? C'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes qui se tiennent en une seule journée, mais les choses ont tellement évolué que pour la plupart des fêtes maintenant, on organise toujours une foire qui est associée et qui prend fin le jour de l'apothéose de l'événement. Donc si nous sommes dans la dynamique de promouvoir la culture et le vivre ensemble, on peut en faire également on peut faire des autres fêtes comme cela. On voit Ekwekwe ici, Ekwekwe, ce n'est pas seulement une journée. C'est sur.
Il y a des cousins.
Justement,
dans le
c'est sur toute une période, mais l'engouement n'est toujours pas ainsi.
D'accord. Merci, Esaïe. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est leur droit aussi de s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. C'est sur nos deux numéros, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et ils peuvent nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp, 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous, 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Je m'appelle Frédéric.
Frédéric?
Oui,
de Condédi, voilà, allez-y.
Oui, je voulais faire un bac à mon frère qui a dit que le candidat n'a rien foutu sur le terrain. Là, c'est un peu touchant. Parce que comment c'est fait, moi, je vais aller payer ma caution. Être candidat, je vais rien foutu. Si elle a dit qu'on n'a pas fait de travail comme il faut, comme ça, c'est droit, là, ça, c'est compréhensible. Il dit qu'il n'y a pas de campagne. Comment il n'y a pas de campagne? Il dit qu'il a Condédi avec des policiers, c'est un homme cagoulé. Ils n'ont pas fait pas travail comme nous, on l'avait fait. Ils ont fait seulement une marche de Condédi à Condédi, ils sont repartis. Nous, on est resté avec la population, on nous a demandé d'aller voter. Ils nous insultaient qu'ils nous sont vendus à de l'euro. Au moins, je n'ai pas pu faire la campagne. Moi, c'était un candidat qui a approché les gens. Et ce qu'ils m'ont dit, comme je le fais, il ne faut pas rester là pour dire que les gens qui ont des candidats n'ont pas pu faire de campagne. Là, je suis désolé, mon frère. Bonne émission. Je vais m'excuser.
Frédéric, oui, merci pour votre intervention 90, 86, 35, 35. Allô?
Bonjour, Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, c'est bon, l'immense.
C'est Basile?
C'est Basile.
Oui, allez-y, Basile.
Bon, je bats en brèche les arguments que les journalistes ont avancés en disant que c'est un temps qui ont milité en faveur de cette prétendue victoire de Uni. Bon, Uni ne peut ne pas voler une élection. Il n'y a pas une élection que Uni ne peut pas s'abstenir de voter. Donc, quand on le fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on va se gêner? On ne se gêne plus. Moi, je vous donne toujours l'exemple de 2002. Que moi, j'ai chapeauté plusieurs villages dans le Bac. C'est une élection que l'élection a boycotté, l'opposition a boycotté. Et pourtant, on vole pas aussi. Donc, c'est dit qu'il va sur le terrain. Il va sur quel terrain? Moi, je vous ai dit qu'un candidat de l'UNI, puisque même un bébé qu'on a mis au bord de l'UNI, on dit de voter. Les gens vont voter pour le bébé là. Il n'y a personne qui peut voter pour son malheur. Le parti Uni nous fait vraiment du malheur ici, et puis toi tu vas dans l'une, tu vas aller mettre...
Merci beaucoup. Basile. Oui, Basile, merci. Merci, 90, 86, 35, 35. Allô?
Bonjour.
Pardon, Romain?
Oui, de Yekonapé.
Romain, allez-y.
Oui, salut, tous les journalistes.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez faire sur ça? L'argent qu'il a pris pour louer des voitures, les voitures là c'est pour qui? C'est pour nous les peuples. Autant travaille pour Uni, tous les dirigeants travaillent pour Uni. C'est notre argent. Donc ils ont pris notre argent pour faire des campagnes. Donc pourquoi il dit que l'Uni a battu les records sur le terrain? Non, il a volé notre argent pour faire des campagnes.
Romain, oui, merci pour votre intervention. Salut le plateau. C'est dommage que les hommes ne savent pas comment voter. Trop de bulletins achetés d'encre, tachetés d'encre, il vous l'a écrit. Je vous dis que Uni aussi ne s'est pas positionné dans toutes les communes. Vous pouvez vérifier. C'est Emmanuel depuis Toglekopé. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Mauto. Monsieur Mauto.
Bonjour le plateau.
Oui, bonjour.
Vous savez, ce n'est pas que le président n'a pas rentré vite en campagne que il y a gagné. Il ne peut jamais gagner les votes au Togo. Moi, j'attends, c'est un analyse. Ça me fait piquer quoi. En 98, le Bozon a boycotté. En 2005, est-ce que le Bozon a boycotté? Même en 2010, on dit savoir que le Bozon ne donne pas de preuves. Les gens rassemblent leurs preuves à ces gens. On a saisi les examinateurs. C'est remis, vous savez, ils peuvent rappeler tous les conseils qu'il faut. Ils ne feront rien dans ce pays. Parce qu'il faut développer le pays avec les moyens. Tant que les moyens sont coupés en chemin, avec quoi ils vont développer le pays? Celui qui gouverne le pays, il veut seulement pour servir la classe politique. Un président ne gouverne pas un pays pour servir la classe politique. Là, président, attends, il ne peut rien faire. Ils sont à bout de souffle-là. Merci, bonne émission.
Mais merci, monsieur Mokto, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô, bonjour. Allô. Décidément, il semble que la radio à côté de lui fait un peu de bruit. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Appelez-moi Saint-Jo. Je vous répondrai le seul chef parmi les vivants.
Pardon?
Appelez-moi Saint-Jo.
Oui.
Je vous répondrai le seul chef parmi les vivants.
Ok, Saint-Jo, allez-y.
Oui. Et j'ai entendu tout à l'heure l'un de vos confrères dire que le peuple a refusé d'écouter les politiques. Bon, je vous dis plutôt c'est le contraire. C'est les politiques qui ont refusé d'écouter le peuple. Je vous m'explique. Par exemple, l'autre fois, le peuple a dit de ne pas aller à l'élection parce que nous sommes en deuil.
Les politiciens... Oui, Saint-Jean. Oui, le peuple l'a dit comment?
Le peuple a dit de ne pas aller à l'élection.
Oui, le
parce
peuple,
que nous sommes en deuil.
Le peuple l'a dit comment?
La population se trouve dans des lagrimes par-ci, par-là. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple dit que s'ils s'en vont dans les hôpitaux, ils ne trouvent pas de bons traitements à faire. Mais les politiciens, eux, il ne faut que leur tête, que ce soit l'opposition ou parti au pouvoir. Donc, si on dit maintenant que la population n'a pas sorti, ça ne dit rien. Parce que nous n'avons pas besoin de voter. Nous n'avons pas besoin de voter. Ce n'est pas le vote là qui va faire le Togolais. Je vous dis, moi-même qui suis ici là, depuis le temps de Bob Akitani, je ne peux aller dans le bureau de vote. Je vais aller voter pour faire quoi? Ce que le peuple dit, au lieu que les politiciens nous écoutent, et c'est ce que le peuple dit, et il faut ce qu'ils veulent. Est-ce que dans d'autres pays là, c'est comme ça que ça se passe?
D'accord, merci beaucoup, Saint-Jo, 90-86-35-35. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom c'est?
C'est Jean-Paul d'Azido Gomé.
Jean-Paul, depuis Azido Gomé, allez-y.
Et d'abord, je vous salue. Et je voulais porter mon truc sur les élections. Mmh. On parle toujours du peuple. Mais ceux qui ont voté là, c'est quoi? Ils sont quoi? Ils font pas partie du peuple. C'est seulement ceux qui boudent ou qui restent à la maison qui sont le peuple. Si on continue comme ça dans notre pays, l'opposition ne gagnera jamais les élections. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Unis n'attend pas les élections pour être sur le terrain. Ceux qui disent qu'ils ont vu les candidats d'Unis, ils n'ont pas vu les candidats d'Unis sur le terrain. Ce n'est pas le dernier jour qu'Unis fait la campagne. Ils sont en permanence sur le terrain. On a toujours demandé à l'opposition d'être en permanence sur le terrain. Ils ne le font pas. On les voit quand il s'agit de marches. Les dernières marches, l'opposition cherche quoi dans la dernière marche? L'opposition cherchait quoi là-bas? Mais quand on passe tout son temps à profiter des événements, voilà, c'est le résultat qu'on récolte. C'est la population qui a sanctionné l'opposition. Qu'on arrête de dire et la population, la population a refusé. Non. Soyons sincères.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, c'est le peuple a battu campagne depuis l'avènement de ce régime. Hein. Notre sœur Nyakader a battu plus campagne. Chacun fait sa part, comme l'a dit Monseigneur Bariga. Le peuple a fait sa part. Le peuple a battu campagne au boycott, pour le boycott.
Monsieur Nyamavo.
Oui.
Le peuple, c'est qui?
Le peuple, c'est ceux qui ne sont pas allés au vote.
Ah bon? Et ceux qui sont allés?
Et ceux qui sont allés, je vous dis un exemple, un jeune disait que lui n'est pas allé voter tout simplement parce qu'il attendait ses 20 000 francs. On leur dit d'aller finir le travail avant qu'ils ne prennent leur argent. Mais lui n'est pas allé. Parce que ceux qui sont allés ont confiance qu'après cette mission, ils vont prendre leur part, c'est pourquoi ils sont allés.
Non mais ça c'est un cas.
Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont aussi a répondu parce qu'ils ont pris des avances et ils sont allés. Ils ont pris, c'est des intérêts.
Oh non mais il y a des gens qui, oui Monsieur Niamavo,
oui,
il y a des gens qui sont partis voter par devoir civique.
Pardon?
Il y a des gens qui sont partis voter par devoir civique.
Non, aujourd'hui il n'y a pas de devoir civique, tout est de la gouvernement. On ne comprend plus rien.
D'accord, ok, merci.
Vous allez voir même sur les réseaux sociaux, on a vu les gens qui sont en train de voter à la place des autres, les absents.
D'accord,
merci. Donc c'est le résultat là qu'on vous a donné.
D'accord, merci.
La réalité est là, vous-même vous avez vu, merci. Le physique.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Niamavo. Merci. Je pense que Monsieur Niamavo, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Nous avons un message au niveau à l'heure de WhatsApp. Bonjour le plateau. Je pense qu'au-delà du folklore et de tout ce qui entoure les festivités des Luit et Vala, il faudrait véritablement penser à la mise en place des projets réalisables à chaque édition pour le développement de cette localité. Car depuis qu'on célèbre cette fête, qu'est-ce qui reste de pérenne à la population de Kara à la fin? C'est une question qu'il faut se poser et réfléchir ensemble sur et expérimenter dans toutes les localités pour asseoir un développement à la base. C'est Adi qui nous écrit depuis Adapame. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Eric, 30 secondes.
Non, je pense que ce que vient de dire le compatriote là n'est pas juste du tout. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Hein. Il faut y aller et regarder. Hier, par exemple, on a appris que le chef de l'État était à l'hôpital de Kara pour la rénovation de ce centre-là où déjà l'année dernière, il y a eu l'achat d'un scanner ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut être un peu modéré sur la question. De l'autre côté, en ce qui concerne les élections, je demande toujours à mes compatriotes, quand nous discutons, prenez le temps de nous suivre, mais avec moins de passion. Parce que sinon, vous ne retenez rien. C'est-à-dire que vous-même, vous avez déjà des a priori et vous les détalez comme ça parce que vous avez eu l'opportunité d'appeler au cours de l'émission. Suivez-nous très bien. Le débat contradictoire se fait déjà ici. Maintenant, quel est votre apport? C'est ce qu'on leur demande. Mais ne venez pas dire, bon, tel a raison, tel n'a pas raison. Nous, on a déjà fait le débat contradictoire.
D'accord, merci beaucoup, Eric.
Je pense que l'un dans l'autre, tout le monde a raison par rapport à ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce que nous cherchons? Quand on demande, le peuple, c'est qui finalement? Ceux qui sont allés voter, ce ne sont pas des Togolais? Ils constituent une partie du peuple. Ceux qui n'ont pas voté, ce ne sont pas des Togolais, ils constituent également une partie du peuple. Et si nous acceptons que nous sommes en démocratie, il faut donner le droit à tout un chacun de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Si je veux participer aux élections, c'est moi. Si je ne veux pas, c'est mon droit.
D'accord. Claude, 30 secondes.
Je vais dire deux petites choses.
Allez, allez-y.
Je vais répondre à celui-là. C'est parce que le peuple, la classe politique n'écoute pas le peuple, que le peuple a fini par ne plus l'écouter. C'est ce que je dirais. Et puis deux, pour répondre un peu à Eric, qui trouve souvent nos opinions tranchées, c'est pour lui dire que c'est la gouvernance publique du pays même qui est tranchante, et nous autres qui subissons, nous sommes obligés d'avoir des opinions tranchées.
D'accord, merci Claude. Oui,
je crois qu'un auditeur a dit que UNIR ne s'est pas présenté dans les 117 communes. Non, UNIR s'est présenté dans les 117 communes. Je voudrais quand même préciser cela et rassurer l'auditeur. Maintenant, au-delà de tout ce que nous disons, au-delà des débats politiques autour de de l'élection. Je pense que le résultat, il est là. Ça va être validé par la Cour suprême. En tout cas, je ne pense pas que la Cour suprême donnera autre résultat différent de ceci. Enfin, eu égard de tout ce que nous avons dit, l'environnement et tout. Et donc, je pense que
parce
maintenant...
Parce que pour le moment, il n'y a pas de recours, il n'y a rien quand même pour contester.
Donc, justement, il n'y a même pas de contestation au niveau de l'opposition. Donc, maintenant, il faut passer au travail. Comme les élus ont l'habitude de le dire, ils sont élus pour ceux qui ont voté pour eux, de même que pour ceux qui n'ont pas voté pour eux. Donc, le travail doit se faire et doit être profitable à tout le monde. Donc, les élus passe au travail, qu'on laisse les affinités politiques ou encore les manteaux politiques pour se mettre au travail. D'accord. Nous avons besoin de développement.
Merci beaucoup, Esaïe Edo. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, Eric Parkoudjo-Josson, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé dans cette émission. Claude Assiobotis, merci d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes conseiller littéraire et aussi vous faites partie alors de la société civile. Et vous avez apporté aussi votre contribution à ce débat contradictoire. Merci à vous et merci à vous qui nous avez suivi aussi, hein, vous qui nous avez appelé, merci à vous pour votre contribution. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Merci à toi, Michel. Merci également à Jérôme Akoutsa qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.